Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition La Psy qui parle. La Psy qui parle, vous ne connaissez pas ? En fait, La Psy qui parle, c'est Audrey Ginisti qui est très très présente sur YouTube, sur Instagram et sur beaucoup d'autres plateformes. Et comme son nom l'indique, c'est une psy. Et j'ai décidé avec elle de faire des épisodes récurrents autour de thématiques que nous allons choisir, d'échanger et d'essayer de vous apprendre plein de choses. Cet épisode, c'est un petit peu le pilote d'une série que j'espère très longue. N'hésitez pas à m'envoyer des messages pour me dire ce que vous en pensez, ou si c'est une fausse bonne idée. Mais très honnêtement, je ne pense pas, parce que j'ai passé un incroyablement bon moment à échanger sur un sujet qui me semble intéressant, les personnes négatives. Comment on gère ces personnes négatives? Pourquoi sont-elles négatives? Eh bien, la psy qui parle, Audrey, va tout nous expliquer. J'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter cet entretien que j'ai eu à le faire, parce que c'était vraiment un très bon moment. Bonne écoute. Bonjour Audrey.
Bonjour Gaël.
Comment vas-tu?
Ça va très bien, et toi?
Bah oui, super bien. Moi, je suis toujours content de parler à la psy qui parle de temps en temps. Ça m'éclaire, ça me donne plein de bonnes idées, et surtout que le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, un peu pas à ta demande, mais un petit peu quand même, parce que tu es très inspirée par ce sujet, ce sont les personnes négatives. Ces personnes qui, en gros, déprimeraient une armée de clowns, qui disent toujours « Non, mais ça, on n'y arrivera pas. Ça, ça ne marchera pas. Non, mais c'est nul ce que tu fais. » Et en fait, j'ai une première question. Est-ce que c'est une nature d'être négatif comme ça? Et si ce n'est pas une nature, est-ce que ça peut se travailler?
Alors, c'est déjà une très, très bonne question. J'ai envie de répondre. À la fois, c'est une nature humaine, c'est dans la nature humaine que d'être un petit peu négatif, de plus focaliser, on va dire, sur le négatif que le positif. Mmh. Un exemple tout bête, dans la journée, il va y avoir plein de choses positives qui vont se passer. Admettons, tu vas recevoir plein de compliments sur ton podcast, et puis il suffit d'avoir un commentaire négatif pour que ce soit ce commentaire-là qui, finalement, pèse plus lourd, on va dire, que les 10 autres commentaires positifs.
Mais je crois que ça, c'est ça qui fait qu'on est sur cette terre, parce qu'on a hérité ça de nos ancêtres préhistoriques. Non, c'est le biais... Comment s'appelle le biais négatif,
oui, ou quelque chose comme le ça? Le biais de négativité.
Le biais de négativité. T'as vu, je connais des choses en psy.
C'est ça.
Oui, j'ai travaillé aussi. Non, mais c'est fou. Tu pourrais le réexpliquer très rapidement?
Alors, en gros, c'est vraiment cette tendance à se focaliser beaucoup plus sur le négatif, à donner plus d'importance sur le négatif, enfin au négatif, donc aux événements négatifs en général qu'au positif. Voilà, si par exemple je te demande de me lister 10 souvenirs de ton enfance, il est probable que dans les événements marquants, il y ait plus facilement des souvenirs négatifs qui viennent en tête que des souvenirs positifs.
Et ça, c'est... parce que nos ancêtres préhistoriques, c'est ça qui leur a permis d'être très attentifs à tous les dangers de la nature et qui ont fait qu'ils ont survécu. Donc, et on a gardé ce biais-là.
Mais
donc, c'est dans notre nature, mais il y a quand même des gens qui le sont plus que d'autres. Ou en tout cas, qui l'expriment plus. Ça tient à quoi?
Alors après, effectivement, il y a des facteurs liés à notre personnalité. Donc il y a des personnes qui sont peut-être plus sensibles, on va dire, à ce biais-là et qui peuvent avoir également, on va dire, une tendance à être un petit peu plus dans l'anxiété. Donc ça, si tu veux, c'est aussi un autre trait de personnalité. Donc moi, je me réfère à un modèle scientifique de la personnalité qui s'appelle le modèle en 5 facteurs, le Big Five. Et tu as un trait qui s'appelle la sensibilité émotionnelle. Et donc cette sensibilité émotionnelle, il faut l'imaginer comme un continuum qui va de moins à plus. Alors on peut être à n'importe quel endroit de ce continuum. Et plus tu as un niveau élevé en sensibilité émotionnelle, plus potentiellement, en tout cas, tu peux avoir cette tendance à être anxieux et donc à transmettre aussi ton stress aux autres. Mais alors, c'est pas gravé dans le marbre, heureusement. On peut apprendre, j'ai envie de dire, à le manager, ce trait-là. Et puis, tu as aussi des styles émotionnels. C'est-à-dire que moi, typiquement, tu vois, j'ai mon papa qui a cette tendance vraiment à voir le négatif, à être très pessimiste.
C'est très français, ça aussi, quand même.
Ah, je pense qu'il y a une petite tendance culturelle qui peut jouer. Oui, oui, c'est vrai. La difficulté, je dirais, que c'est que à la fois, ce sont des personnes qui peuvent plomber toute une ambiance, qui ne se font pas du bien non plus, parce que effectivement, sans cesse ressasser le négatif ou pointer du doigt ce qui ne va pas, ça ne va pas nous faire avancer. Mais ce qui est important, peut-être à noter, je dirais, c'est que souvent dans les entreprises, on va les pointer du doigt en ayant l'impression que c'est intentionnel. Tu vois, il y a ce côté-là, j'ai l'impression qu'il ressort beaucoup.
D'une certaine manière.
Je pense que c'est plus en fait un réflexe, une tendance. C'est-à-dire que si concrètement on allait voir cette personne négative en lui disant, écoute, là j'ai l'impression que tu fais exprès de pointer du doigt le négatif pour plomber l'ambiance. Je pense qu'assez logiquement, elle te répondrait que non, c'est pas du tout volontaire et qu'elle n'avait pas l'impression que c'était quelque chose qui allait impacter toute l'équipe.
Mais est-ce qu'il faut prendre justement, quand on a un collègue ou un manager ou un manager qui est systématiquement négatif, ne pas en faire tout un plat et en parler de façon relativement légère, en dédramatisant, en allant voir la personne en disant « écoute, tu dis toujours non à tout, alors tu as le droit dans l'absolu d'avoir un esprit critique, mais par contre quand c'est systématique, je me pose la question du « est-ce que tu as vraiment envisagé toutes les possibilités ?» et d'aller plutôt dans le « je comprends que tu sois comme ça, mais est-ce qu'on peut en parler parce que c'est quand même un peu chiant ?»
Oui, oui, tout à fait. Mais en réalité, c'est des choses qui se font rarement, mais t'as complètement raison. L'idée, c'est effectivement déjà d'accueillir la plainte ou le ressenti de la personne sans émettre de jugement. Ok, c'est ta manière de penser, j'entends bien, je comprends bien que tu vois les choses de cette manière-là.
Oui, pas dire que t'es un gros nul de penser comme ça.
Ou ne pas le faire sentir, parce que parfois c'est plus subtil, c'est dans l'attitude non-verbale, on va écouter la personne, mais la personne en face qui est en train de se plaindre sent bien qu'en face, il y a...
Genre les yeux au ciel, souffler, ce genre de choses. Ça me rappelle les souvenirs en entreprise, ça. Oh là là.
C'est bizarre.
C'est étrange. Hein. Ah oui, c'est vrai. Non, tu as raison de rappeler ça. Le non-verbal est fondamental.
Beaucoup plus. Ouais. Oui, beaucoup plus. Oui, parce que comme tu le sais, j'accompagne aussi des managers.
Bien sûr.
Et tu as certains managers qui vont appliquer très bien à la lettre ce qu'ils ont appris. Donc, pourtant, j'étais en train d'écouter la personne. Oui, mais au niveau de ton attitude non-verbale, ça se voit quand tu écoutes ou quand tu n'écoutes pas ou quand il y a un jugement. Le jugement de l'autre se voit aussi dans les expressions du visage.
Et c'est ce que m'avait dit un manager chez TF1. J'étais un jeune manager et il me disait, mais Gaëlle, quand tu es énervé en réunion, ça se voit dans tes yeux. Donc, essaye d'avoir un regard gentil. Et c'est vrai que c'est... quand on est sensible à ça, on décrypte tout. Enfin.
Encore plus. Mais quand bien même la personne ne l'aurait pas conscientisé, elle va le ressentir. Une partie de son cerveau va capter qu'en face, il n'est pas à l'écoute et il te dit oui, mais en fait, il ne valide pas du tout ce que tu dis. Donc effectivement, il y a ce premier temps de j'accueille ce que la personne dit, sans forcément valider, mais j'accepte ton point de vue. Et puis ensuite, de tirer vers le haut, c'est-à-dire, ok, comment on pourrait faire ensuite? Donc de se focaliser un petit peu plus sur les solutions, peut-être aussi d'éclairer sur l'impact que ça peut avoir au niveau de l'équipe. Souvent, je sais qu'il y a pas mal de managers qui n'osent pas dire à la personne négative, alors je caricature en disant ça, que son attitude, même sans rien dire des fois, peut impacter l'ambiance du groupe, l'ambiance de l'équipe. Mais c'est important de le dire et de rappeler pourquoi on le dit, de recontextualiser. Effectivement, l'attitude de chacun va amener forcément un type d'ambiance particulier. C'est toujours une forme d'alchimie en réalité.
Mais est-ce qu'on n'a pas intérêt à commencer par lui dire ce que, ou à finir, je ne sais pas, c'est toi qui vas me dire, ce qui va en retirer lui ou elle?
Déjà, moi je dirais de commencer par son intention. C'est-à-dire que là, si je te fais ce feedback, mais c'est vrai pour n'importe quel feedback, c'est vraiment pour toi, pour l'équipe, pour l'entreprise. Voilà, de recontextualiser. C'est pas dans l'optique de pointer du doigt ce qui ne va pas et d'en rester là. C'est de voir comment ensemble on peut faire en sorte que ça aille mieux. Et après, peut-être aussi lui faire verbaliser les choses en lui demandant comment tu le ressens toi quand tu es en train d'exprimer ce qui ne va pas.
Ça a l'air de l'amener à lui-même faire une forme d'auto-analyse qui décrypte, ce qui est beaucoup plus puissant d'ailleurs, si la personne comprend comment il fonctionne alors qu'il ne s'est jamais posé la question, c'est beaucoup plus marquant.
Tout à fait. C'est-à-dire de l'impliquer plus que de lui expliquer les choses.
Non, c'est joli comme expression.
Ça, je crois que je dis ça à peu près 12 fois par semaine, impliquer plutôt qu'expliquer. Parce qu'expliquer, c'est toujours descendant.
Ouais.
Et il y a cette notion, un peu quand même, malgré tout, d'infantiliser l'autre. Je vais t'expliquer comment tu dois faire.
Oui, et puis surtout, alors, sur un comportement, c'est très infantilisant de dire...
Tout à fait.
Et surtout que la personne qui est négative pense être au service de l'entreprise et donc pense bien faire dans l'absolu.
Mais ce qui est la réalité, la plupart du temps, les gens négatifs ne le sont pas, je le redis, hein, volontairement. C'est vraiment, c'est souvent en fait plutôt des personnes qui n'ont pas conscience de leur propre état émotionnel, de leur propre manière de penser, et donc ont parfois, pas toujours, mais parfois des difficultés d'introspection.
Est-ce que pardon de t'interrompre, Audrey, est-ce que l'une des problématiques, c'est que dans notre relation à l'autre, on n'a pas tendance à avoir une grille de lecture qui est notre propre personnalité, sans intégrer que l'autre peut avoir une personnalité totalement différente, avec des intentions totalement différentes.
Oui. Forcément, on voit un comportement à travers notre propre prisme. Et notre tendance, c'est quand même d'attribuer des suppositions, des intentions, de prêter des intentions qui sont pas forcément les bonnes. Donc, de manière assez inconsciente, assez automatique, quand quelqu'un se plaint ouvertement dans l'équipe, on va avoir l'impression qu'elle fait exprès, qu'elle plombe l'ambiance. On va ressentir quand même un peu d'hostilité, si on est honnête envers nous-mêmes.
Bien sûr.
On va ressentir un peu d'hostilité. Et donc, là, je dirais que la grosse problématique ou le gros challenge à dépasser, c'est de se dire, OK, elle ne fait pas exprès. Et est-ce que moi, je peux l'aider? Que je sois manager, collègue de travail, gestionnaire, est-ce que moi, je peux l'aider à évoluer un petit peu, à changer ça?
Et est-ce que tu as déjà vu des gens vraiment évoluer sur cet item-là?
Alors, il faut déjà qu'on leur donne cette chance-là. Parce que là, tu vois, j'ai un exemple en tête qui date d'hier, où grosse structure. Donc là, j'accompagne une personne qui gère à peu près une quarantaine de collaborateurs. Et hier, c'était l'entretien annuel. Et en l'occurrence, pour la première fois, à ce collaborateur-là, on lui faisait un feedback un petit peu négatif. Hein. Constructif, évidemment, mais on lui disait, tu vois, au niveau des compétences techniques, c'est super. Par contre, au niveau des compétences sociales et relationnelles, ça ne va pas. Tu tacles tes collègues devant tout le monde, alors sous couvert d'humour, mais ça met les gens mal à l'aise, etc. Donc, il a vraiment trouvé tous les arguments, si tu veux, là, mon coaché, on va dire mon client, pour lui expliquer voilà ce qu'il devait changer. Et qu'est-ce qui s'est passé? La personne l'a remercié.
Génial.
Il a dit, écoute, je te remercie de m'avoir dit ça, c'est la première fois, parce qu'il y avait aussi une notion de notes, tu sais, ils ont des notes à mettre. Je comprends maintenant, tu as justifié le pourquoi tu m'as mis cette note-là et pas une super note. Donc maintenant, je vais avoir des éléments tangibles sur lesquels je vais pouvoir progresser. Alors, il n'a pas dit ça, si tu veux, c'est une discussion qui a duré quand même une heure. Hein.
Mais toi, tu as assisté à l'entretien?
Non, ça, c'est ce qui m'a relayé après.
Ouais, okay, je trouvais ça hyper étonnant qu'un entretien annuel se déroule en présence d'une psy.
C'est peut-être pas recommandé quand même.
C'est ça. mais c'est très étrange, Audrey, un métier très, très bizarre.
Comment faire en sorte que la personne se sente le plus mal à l'aise du monde? Tu lui mets une psy à côté, tu vois. Mais ça, ils se sont bien jugés.
Rien contre toi, bien entendu. On a pris une psy parce que bon, on s'est dit que ça serait bien quand même.
Ouais.
Mais c'est génial quand ça se passe comme ça quand même. Quand il y a
un
feedback négatif dont il sort quelque chose de positif. Mais je crois qu'entre la forme et le fond, c'est mon père qui me disait toujours, on peut tout dire à quelqu'un tant qu'on y met la forme.
Oui. Je te rejoins beaucoup là-dessus, en sachant que souvent la forme, en fait, on ne nous a pas appris à la mettre, du coup on ne dit rien. Et ça, c'est je dirais 90% de ce que je vois en termes de situation, c'est on n'ose pas dire, parce qu'on se... Alors on se trouve toutes les excuses du monde, hein. Il ne changera pas, il fait exprès.
Tu dis dans 90% des cas.
Ah, mais il y a énormément de cas où ça n'est pas dit. Surtout dans les cas où tu as effectivement le collaborateur qui fait bien son travail. Donc là, on se dit, oui, il assure quand même au niveau du boulot, il ramène le chiffre, donc on ne va pas...
Et son côté négatif, finalement, on va dire, on ne va pas le stigmatiser, on ne va pas risquer qu'il soit démotivé juste à cause de ça. Mais je ne croyais pas que c'était dans une telle proportion. Toi, le truc le plus dur que j'ai eu dire à un collaborateur quand j'étais en entreprise, c'était une personne qui ne mettait pas de déodorant. C'est très compliqué à gérer ce genre de choses, mais c'est une digression qui est trop grande. Mais malgré tout, je suis très surpris que même sur quelque chose qui semble assez simple de dire, ce serait peut-être bien que tu changes d'attitude, de point de vue ou dans la forme, peut-être parfois, tu as le droit de ne pas être d'accord. Par contre, peut-être dans forme, j'ignorais. Donc, comme quoi, la libération de la parole, on est loin d'être arrivé à une libération de la parole complète, quoi.
Ah oui, on est très très loin. Et là, enfin, quand je te dis 90%, c'est tout comportement négatif confondu. Donc, ça va être le collègue qui, dans l'open space, parle très fort, tous les mini comportements toxiques, tu vois, qu'il peut y avoir. Celui qui fait des blagues devant tout le monde mais qui est un peu moqueur et souvent en fait l'équipe va avoir tendance, mais même le, je te dis N+1, N+2, à ne rien dire parce qu'en fait on ne sait pas comment prendre les choses, donc quand on ne sait pas on ne fait rien, voilà.
Mais est-ce que tu ne penses pas que si on n'en parle pas, c'est parce que justement on a peur d'avoir une réaction très négative de la personne, et je vais donner un exemple qui sera une question en même temps. Je vais voir un collaborateur, une collaboratrice qui est toujours négative. Et donc, j'essaye d'y mettre les formes. Et la personne me regarde et fait « Non mais attends, si tu confonds être négatif et avoir l'esprit critique, il faut que tu changes de métier. » Tu réponds quoi à ça?
Et oui, parce que tu as beaucoup de gens qui vont te dire « Non, je suis juste réaliste. Je ne suis pas négatif, je suis réaliste. »
C'est fou.
Alors,
ça.
Ouais, ça c'est fréquent. Hein. Ouais. Bah, oui, réaliste, mais à partir de ton point de vue, de ton prisme, etc. J'ai envie là d'observer ça d'un peu plus haut. C'est en quoi ça, c'est utile pour la discussion, l'entreprise, l'émission, la bonne ambiance au travail. Tu vois, de quelle manière ça sert
pour avancer.
Je sais pas. Oui, c'est ça. Le débriefing, tout dépend du contexte. Hein. Et après, on peut mettre les formes. C'est-à-dire qu'on peut pointer du doigt. C'est intéressant d'avoir quelqu'un de négatif, notamment, tu vois, quand tu veux mettre en place, je sais pas moi, des nouveaux process ou autres, d'utiliser, j'ai envie de dire, le côté négatif de cette personne pour anticiper les problématiques futures.
Oui, mais ça, c'est ce qu'on appelle l'esprit critique, dans le sens où...
Voilà.
Moi, je me considère comme quelqu'un de profondément positif, profondément. Pourtant, j'ai un esprit critique extrêmement fort. Et quand il y avait un truc qui ne me plaisait pas en entreprise, je disais, ça, je ne le sens pas pour telle et telle raison. Je crois que c'est le côté systématique qui décrédibilise même la personne négative. Parce qu'on peut avoir un esprit critique, mais ça suppose que de temps en temps, on soit positif. C'est un équilibre.
Tout à fait. Et puis, c'est aussi effectivement... je te rejoins là-dessus. La question de la fréquence.
Ouais.
C'est-à-dire être négatif, je veux dire, t'as ta collègue Martine qui arrive au travail, qui est toujours de bonne humeur, mais ce jour-ci, elle n'est pas bien, on peut lui laisser le droit de ne pas être bien ce jour-là.
Tout à fait. C'est contre, si Jean-Paul Raoul, tous les matins, il arrive qu'on lui demande est-ce que ça va, non, ça va pas. C'est un peu saoulant quand même.
Oui, à force, tu ne lui demandes plus. Oui, j'ai eu deux collègues comme ça. Alors moi, j'ai une stratégie très très simple qui s'appelle l'évitement. Quand tu peux éviter, parce que là, je ne travaillais pas avec la personne, donc ça allait. Et je dirais aussi, d'ailleurs, le piège souvent que je vois, c'est d'avoir envie de rendre cette personne positive. Tu vois, d'essayer à coup d'arguments rationnels, de dire « oui, mais quand même, tu vois ». Alors là, je pense, tu vois, plutôt aux conversations de cafétéria, tu vois, de pause café à la machine à café. Donc, tu sais, des fois, tu as le collègue ou la collègue qui va beaucoup se plaindre, pointer du doigt ce qui ne va pas, etc.
Rien ne va. Oh, je pense que tout le monde voit
tout le monde bien. Voit.
Oh là,
voilà.
Rien ne va. Et si, comme le disait un journaliste, s'il y a un avion qui s'écrase, c'est sur ses pieds.
Je ne connaissais pas ça. Et le fait est que tout le monde a envie, assez naturellement, de lui montrer le positif. De dire, écoute, oui, il y a ça qui ne va pas, mais il y a quand même des choses positives dans le monde ou dans ta vie. Ou d'essayer de trouver des solutions à cette personne. Vous allez vous casser les dents.
C'est vrai.
Souvent, les arguments qu'on propose, c'est, je ne sais pas si tu en as fait l'expérience, de vouloir faire positiver la personne. Elle va te dire oui, mais elle va rester souvent dans sa réalité, dans sa manière de voir les choses. Elle ne va pas s'enthousiasmer.
Non, pas s'enthousiasmer, mais malgré tout, je trouve que souvent, j'ai le sentiment quand même qu'être négatif, c'est beaucoup plus émotionnel, alors qu'être positif, c'est beaucoup plus cartésien.
Alors ça, je dirais que c'est plutôt un a priori.
D'accord, ok.
Par contre, je raisonnerais plutôt, là où je ferais une différence comme toi, c'est que être négatif, c'est comment dire ? Non, on va le dire dans l'autre sens. Être optimiste et positif, c'est plus coûteux mentalement, en termes d'effort mental, cognitif, que d'être triste ou négatif. Puisque voir le négatif, on l'a dit tout à l'heure, c'est une tendance naturelle.
D'accord.
Donc, se laisser aller à notre réflexe naturel, c'est assez facile, c'est plutôt le négatif. Par contre, j'aime bien la formule de Christophe André, psychiatre, qui dit « je suis optimiste par effort ». Alors, Évidemment qu'il y a des gens pour qui l'effort est moins coûteux que d'autres, qui vont être d'un naturel un peu plus jovial ou optimiste. Mais malgré tout, notre cerveau, il n'est pas programmé pour le bonheur. Il n'est pas programmé pour être heureux. C'est pour ça qu'on a tant de peine à ressentir de la joie ou du bonheur, à se sentir heureux, si on emploie les grands termes.
Alors justement, parce que là, on a beaucoup parlé de comment on gère quelqu'un de négatif. Quel conseil, quel petit truc tu pourrais donner à quelqu'un qui souffrirait du fait d'être négatif ? Je ne parle pas de quelqu'un de dépressif, là, c'est un autre sujet, on ne va pas parler de pathologie, mais de quelqu'un qui dit « Ouais, c'est vrai, je vois les trucs, je vois toujours les trucs en noir, c'est saoulant, tout le monde me dit, qui voudrait changer, tu lui donnerais quoi comme conseil ?»
Ah, qui est déjà dans cette démarche-là.
Oui, parce qui attaque cette démarche en disant « Faut que je fasse quelque chose, parce que c'est vrai, je saoule tout le monde, je vois bien que dans mon relationnel, les gens me fuient. » Parce que tu parlais de toi, de ta stratégie d'évitement, à un moment, tu as des personnes qui finissent par être isolées, il y en a, j'espère, qui réagissent. Donc, ils peuvent faire quoi ?
Alors déjà, en prendre conscience, c'est génial. Pour moi, ça veut dire qu'il y a 50% du chemin qui est fait. Parce que quand tu prends conscience, c'est là où justement tu vas pouvoir agir. Donc, le mieux, en réalité, mais là je prêche pour ma paroisse, c'est d'être accompagné. Donc, forcément, là, je pense à un psychologue, puisque ça a été ma pratique pendant de longues années. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le psychologue, il va pouvoir non pas te dire ce que tu dois faire ou pas faire, mais te montrer du doigt et t'aider, en tout cas, à prendre conscience, à révéler les moments où ça ne va pas, à comprendre pourquoi tu as ces moments de déprime. Alors, on ne va pas forcément chercher dans l'enfance pendant 150 ans, mais il va t'aider aussi à mettre en place des stratégies, parce qu'il peut y avoir des pensées négatives automatiques, bah, il va t'aider à changer, à faire évoluer, ou à mettre de la distance avec ces pensées automatiques négatives. Donc, en prendre conscience, déjà, de ses pensées, et de son comportement, c'est vraiment un très gros travail qui aide à changer. Parce que naturellement, tu vas dire, ah oui, mince, alors là, ça y est, je suis repartie dans le cycle négatif, non, je ne vais peut-être pas plomber mes collègues en leur racontant mon week-end qui s'est mal passé.
Je comprends. Alors, j'aime bien que tu parles des thérapeutes, parce que je parle souvent de ces sujets-là, pas dans Happy Work, mais en extérieur. Je dis, un psy, c'est toujours quelqu'un qui va donner des clés, mais ce n'est pas lui qui ouvre les portes. Et c'est vraiment ce que tu as dit sur le côté se faire accompagner, c'est vraiment quelque chose qui me semble assez essentiel. Et j'avais une autre question, et voilà qu'elle m'échappe parce que j'ai fait une digression. Tu vois, ça c'est mon problème, Audrey, je suis un peu trop hyperactif, j'ai trop de questions qui sont dans la tête. Non, mais c'est extrêmement intéressant tout ce que tu nous as dit. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais dire sur ce sujet, ou est-ce que nous avons fait le tour de la question, même si j'imagine qu'on pourrait en parler pendant 4 heures?
C'est ça, la psy qui parle, c'est pas pour rien que j'ai choisi ce pseudo, évidemment. Peut-être un petit point aussi, juste pour revenir sur cette histoire du cerveau qui n'est pas programmé pour le bonheur. Il est programmé, du coup, pour la survie. Et c'est ce qu'on disait en tout début d'échange. Donc, il est programmé pour voir le négatif, pour anticiper le négatif, et donc éviter le négatif. Donc, ça explique, je trouve, beaucoup de choses sur le fait qu'on se casse un peu la figure, des fois, à vouloir être heureux. Et puis, il y a aussi cette injonction au bonheur qu'on voit un peu partout.
Qui est horrible. Je lutte contre cette injonction, tu n'imagines même pas.
Oui.
Ça pourrait être un sujet d'un prochain épisode, d'ailleurs, l'injonction au bonheur.
Oui.
C'est intéressant.
Oui, parce que c'est très culpabilisant, malgré tout.
Ça y est, je viens de me rappeler de la question que je voulais te poser. Je propose parfois aux managers ou aux managers avec qui je papote qui parlent d'être négatifs et qui ne sont pas négatifs. Et parfois, je leur dis, on a quand même ce biais négatif qui revient, même quand on a le sentiment d'être optimiste. Et il y a un exercice que je leur propose, c'est d'essayer de passer toute une journée sans dire ce petit mot de 4 lettres, mais. Tu as eu 12 sur 20, mais tu aurais pu faire mieux. C'est bon, mais c'est pas assez salé. Bref, ce petit mot-là, et en fait, même moi j'essaye de le faire de temps en temps, cet exercice, c'est incroyablement compliqué d'être juste positif. Alors, est-ce que je vais me faire engueuler par la psy qui parle, ou est-ce que c'est un exercice qui peut être rigolo pour les gens qui se considèrent positifs et qui veulent aller plus loin ?
Oui, moi je trouve ça rigolo à faire, pourquoi pas. L'idée de le prendre comme tu l'as pris, là, avec de la légèreté et puis un petit peu de mise en perspective de nos comportements, de nos habitudes surtout, verbales. Et tu vois, moi aussi ça m'a échappé, je voulais dire un truc que j'ai oublié.
Mais ça c'est l'âge, Audrey, on perd des neurones, c'est terrible. Bon, donc tu ne me grondes pas avec ce genre d'exercice. Mais, on peut, même quand on est optimiste et positif,
on peut encore
progresser en fait.
Après, voilà, peut-être je dirais, tiens, le reproche qu'on pourrait faire là, maintenant si je me mets un petit peu à distance en écoutant ce podcast, ce serait de se dire, oui, mais c'est quand même important de pointer du doigt ce qui ne va pas.
Bien sûr.
Tu vois, oui, évidemment. Évidemment, des fois, on a besoin de pointer du doigt ce qui ne va pas et il faut pouvoir le dire, etc. Mais ce n'est pas la même chose, effectivement, que d'être négatif la plupart du temps dans beaucoup de situations.
Mais je vais te lire quelque chose. J'ai imprimé en énorme sur mon mur, là, en face du micro au travers duquel je te parle. Le bonheur n'est pas d'avoir tout ce que l'on désire, mais d'apprécier ce que l'on a. Parfois, je pense que pas mettre de mais et pas vouloir être perfectionniste, on n'est pas Superman, on est Wonder Woman, et on se met quand même une sacrée pression, alors que parfois, le lâcher prise et se dire « Ok, ça aurait pu être mieux, mais je m'en fous. » C'est pas du « je m'en foutisme », c'est juste se dire « j'ai fait de mon mieux, c'est cool. »
Et je dirais même plus, c'est « j'ai fait de mon mieux avec les moyens que j'avais. Ouais. » Donc les moyens techniques, psychologiques, les informations que j'avais en tête, l'énergie du moment aussi, il y a tout ça.
Eh ben, c'est super. Ouais. Eh ben, écoute, Audrey, mille merci pour ce premier épisode qui risque d'être récurrent. Donc, je dis aux auditeurs de Happy Work, Audrey m'a fait l'immense honneur et gentillesse d'accepter de venir sur Happy Work de temps à autre. Alors, malheureusement, la prochaine ne sera pas avant septembre, parce que je vais lamentablement prendre un mois et demi de vacances, ma chère Audrey. Pour prendre soin de moi. C'était incroyablement intéressant. Je te remercie beaucoup pour ta confiance et pour tous ces petits trucs que tu nous as expliqués. Je te souhaite une excellente journée et donc rendez-vous en septembre.
À toi aussi. Au revoir.
Salut.